l'hymne de Bruxelles par excellence. Et cela fait 64 ans que cela dure. Depuis 1958, l'Atomium domine le plateau du Heysel et renvoie sur la capitale ses reflets argentés. Conçu comme élément central de la dernière exposition universelle de Bruxelles, cet édifice spectaculaire représente, selon le terme scientifique exact, la maille cubique centrée d'un cristal de fer, agrandi 165 milliards de fois, quand l'infiniment petit devient magistralement grand. Imaginé par André Waterkane, ingénieur à Fabrimetal, l'Atomium contribue à la réussite de l'Expo 58. Monument énigmatique et féerique, c'est incontestablement l'attraction phare que tout le monde veut visiter. Fort de ce succès populaire, tout en symbolisant un savoir-faire bien de chez nous, l'Atomium échappe à la destruction qui lui était pourtant promise à la fin de l'expo. Malgré les outrages du temps et grâce à des réparations épisodiques, l'Atomium demeure bien planté sur son socle pendant 40 ans face au Palais des Expositions. Mais à l'aube de l'an 2000, la question de sa survie se pose sérieusement. Sans une importante et coûteuse opération de rénovation, l'Atomium, déjà mal en point, court à sa perte. Il faut donc trouver des sous, beaucoup de sous, ce qui n'est jamais une mince affaire en Belgique. Création, déclin et renaissance de l'Atomium, c'est l'histoire que je vous raconte cette semaine. Bilan d'un monde pour un monde plus humain. Telle est la devise de l'exposition universelle qui se tient à Bruxelles du 17 avril au 19 octobre 1958. Premier événement de grande ampleur à se produire dans la capitale belge depuis la fin de la guerre, l'Expo, comme on l'appelle familièrement, propose aux visiteurs la vision d'une humanité pacifiée, où les progrès de la science et des techniques sont au service de tous. Comme incarnation de cette utopie, implantée au centre de l'exposition et rayonnant de mille feux, l'Atomium. En voici la toute première description sur les antennes radio de l'INR, alors qu'il n'était encore qu'un projet sous la forme de maquette. Nous sommes en 1956.
Dans le cadre prestigieux de l'exposition universelle de 1958, le regard est attiré par une construction audacieuse et d'une forme absolument inattendue. Cette construction dominera le panorama de l'exposition. Son auteur l'a baptisé Atomium, parce qu'avec ses 9 sphères, cet édifice représente les 9 atomes d'un cristal élémentaire de métal, mais agrandi 160 milliards de fois. Il est le symbole de notre temps, marqué par l'étude de la composition de la matière, dont l'influence sera décisive sur la vie économique du monde. L'Atomium veut fixer l'attention sur l'application pacifique de l'énergie atomique et aussi éveiller des vocations à la recherche scientifique. L'Atomium repose sur un pavillon circulaire qui servira de hall de réception. De la sphère supérieure, on pourra jouir d'un panorama remarquable et tout en haut s'ouvrira un restaurant. De larges baies sont prévues là aussi, d'où l'on pourra jeter un coup d'œil par exemple sur ce qui se passe au pied de l'Atomium. La nuit, l'Atomium continuera d'être le pôle d'intérêt de l'exposition. D'innombrables lampes traceront autour de chaque sphère une série de cercles représentant les trajectoires électroniques autour du noyau de l'atome. Spectacle féerique que l'on pourra admirer à des kilomètres à la ronde à Bruxelles en 1958.
Le créateur de l'Atomium s'appelle André Waterkane, ingénieur à Fabrimetal, la fédération des entreprises actives dans la transformation des métaux, aujourd'hui baptisée Agoria.
Pour l'exposition 58, le commissaire général de l'exposition, le baron Munch de Fernic, nous avait approché à Fabrimetal, où j'étais ingénieur directeur, pour nous demander de l'aider à réaliser un monument central.
André Waterkane, créateur de l'Atomium.
Et il me dit, dans mon entourage, on parle de faire peut-être la tour Eiffel, une petite tour Eiffel de 150 mètres, renversée, mise sur sa pointe et tenue en l'air par des câbles. Moi, à première vue, j'ai trouvé ça un peu simpliste, dommage qu'au
commencé à réaliser, dans une structure de grande dimension, une structure moléculaire d'acier, en l'occurrence le cube centré. Le métal cristallise dans différentes formes, et le cube centré est la forme dans laquelle le fer cristallise. C'était un symbole fort indiqué pour les industries du métal qui devaient réaliser la construction. Et ce projet a été accepté d'emblée avec un assez grand enthousiasme, et j'ai été chargé de tout mettre en œuvre pour le mener à bonne fin.
Est-il vrai que vous avez commencé par prendre des balles de ping-pong et des aiguilles à tricoter?
Pas exactement des balles de ping-pong, c'était des balles de caoutchouc, c'était plus facile pour les assembler l'une à l'autre. En fait, oui, c'était la toute première maquette qui a été présentée au commissaire général de l'exposition.
Elle est très documentaire.
Ça l'amusait beaucoup et il a demandé de suite d'en faire une seconde pour lui-même parce qu'il devait la présenter le lendemain au Conseil des ministres. Et c'est au fond sur cet objet extrêmement rudimentaire et très peu esthétique, je dois dire, que la décision a été prise.
Et à partir de ce moment-là, c'était en fin 1954, je me suis mis, bien sûr, à travailler pendant plusieurs mois avec quelques collaborateurs que j'avais choisis. Et nous avons commencé les fondations début 50. Et puis alors là, les travaux ont continué.
Est-ce que vous avez dû, à ce moment, mettre les bouchées doubles parce qu'il y avait des retards?
Oh, les bouchées ont été doubles dès le début. Il fallait arriver à temps. On voulait être à temps et nous avons été à temps. Et ma grande satisfaction, c'est qu'il n'y a eu aucun accident.
Alors que la structure, par définition, n'est pas simple. Ce n'est pas simple.
On travaillait toujours en hauteur. Les ouvriers étaient toujours monteurs, étaient toujours attachés, bien sûr. Enfin, il aurait pu y avoir un accident. Il n'y en a pas eu. De même, il n'y a pas eu d'accident pendant toute l'exploitation, pendant les millions de visiteurs qui, depuis 1958, ont parcouru l'Atomium.
Et alors, l'Atomium, en fait, est vraiment une entreprise belge, parce que vous n'avez utilisé que des matériaux qui viennent de Belgique,
belge.
Avec des entreprises belges.
Des entreprises belges, tout, eh ben, sauf, je vous dirais, l'ascenseur, qui est un ascenseur étranger, parce qu'il n'y a pas, il n'y avait pas à l'époque de marque tout à fait prédominante d'ascenseur belge. Voilà, sinon tout est belge.
Le chantier débute à la fin de l'année 1956. Un duo de cinéastes amateurs, Ernest Salu et Roger Ebelink, obtient l'autorisation de filmer, en exclusivité, la construction de l'Atomium. Le film, tourné en couleur, ce qui est rare à l'époque, montre toutes les étapes du montage de l'édifice aux 9 sphères. Un témoignage précieux souligné par un commentaire parfaitement adapté à une écoute radiophonique.
L'habillage des sphères se poursuit. Celles-ci en sont encore au stade de l'essayage et de la faufilure. Un panneau boulonné par-ci pour le rembourrage, un joint de plastique par-là pour l'étanchéité, puis la pose délicate des innombrables facettes triangulaires. Bientôt, ils auront la ligne et l'éclat de leur sœur aînée, la sphère de base, terminée depuis 4 mois, et qui ne se lasse pas de refléter des passants et de paysages, comme la boule de verre des jardins d'autrefois. Près d'une boule, souvenez-vous-en, de 18 mètres de diamètre et percé de hublots de plexiglas comme un énorme bathyscaphe. Dépêchons, les sphères en porte-à-faux en sont encore à attendre les 12 côtes de leur cage thoracique, les 12 arcs de leur ossature. Les moteurs vont battre tous les records de vitesse, ils parviendront à mettre en place jusqu'à 6 arcs par jour. Voyez-les, ces monteurs acrobates, évoluant à 80 mètres du sol. Un faux mouvement, un geste mal calculé et ce serait la mort. Ils y pensent, n'en doutez pas. Mais pourquoi s'affoler, quand on a ces pieds élastiques, ces souples jarrets, ces reins flexibles, ces deux bras qui sont à la fois balancier, crochet, grappin, et au bout, la double pince de 10 doigts aux réflexes infaillibles. Et puis encore, la volonté. L'audace, la maîtrise de soi qui finit par vous donner cette tranquille assurance devant le vide meurtrier. La plus belle victoire de l'homme, n'est-ce pas encore celle qu'il remporte sur lui-même? Aucun des monteurs n'a jusqu'ici succombé au piège quotidien du vide, et aucun d'entre eux n'y succombera. Cette extraordinaire construction aura pu être menée à bien sans qu'on ait eu à déplorer le moindre accident de personne. D'ailleurs, voici qu'on place cérémonieusement le dernier tube de l'ouvrage. À 100 et quelques mètres d'altitude, les monteurs terminent consciencieusement leur tâche. Et maintenant que se lève le jour J, l'Atomium est prêt. Et Étonnant encore et déjà familier, il règne sur la Babel étourdissante qui à ses pieds s'éveille et se hâte de vivre, se sachant condamné. Lui, à la sérénité des choses qui demeurent. Ses neuf globes resplendissent dans le soleil, comme ils resplendiront la nuit, sous l'enlacement lumineux d'électrons symboliques.
Afin de bien mesurer à quel point l'atomium est une construction atypique et hors du commun, voici quelques chiffres éloquents. Construit dans un acier spécial à haute limite élastique, l'atomium culmine à 102 mètres et pèse 2400 tonnes. Il repose sur trois bipodes de 100 tonnes chacun. Les neuf sphères de 18 mètres de diamètre sont reliées entre elles par des tubes de 3 mètres de diamètre et 29 mètres de longueur. Lors de sa mise en service en 1958, l'ascenseur de l'axe central qui mène à la sphère supérieure est le plus rapide du monde. Sa vitesse est de 5 mètres par seconde, soit 18 km/h, ce qui permet d'atteindre le sommet en 23 secondes. Pendant l'expo, l'atomium accueille entre 12 et 13 000 visiteurs par jour. Parfois critiqué, mais le plus souvent plébiscité, l'édifice fait sensation. Et lorsque sonne l'heure des bilans et des conclusions le 19 octobre 1958, il est déjà acquis que l'atomium ne sera pas détruit, contrairement aux autres bâtiments et pavillons.
Alors quittons les escaliers du hall d'accueil, passons au-dessus des fontaines de la place de Belgique, nous passons au-dessus de l'escalier d'eau qui conduit vers l'atomium, et là, au sommet de l'atomium, se trouvent deux autres reporters. Attention, l'atomium, à vous, Émile Ansval. À vous, Georges Connell.
Bien, effectivement, nous vous parlons du haut de l'atomium qui est le point culminant de l'exposition, comme chacun sait. D'ici, nous voyons bien entendu les choses de très haut et le panorama est vraiment saisissant. Tellement saisissant et tellement féerique qu'il a attiré beaucoup de monde et beaucoup de bruit. On se bouscule autour de nous pour essayer d'identifier les points, les traits, les courbes et les innombrables étoiles qui scintillent dans le ciel de Bruxelles.
Pour le dernier jour, l'exposition semble plus lumineuse encore. D'un côté, l'avenue de Belgique avec les escaliers d'eau, les fontaines multicolores de la place de Belgique et la grande façade postiche du hall d'accueil avec ses dizaines d'étoiles bleues au néon et la grande colombe de cuivre rouge. Cela, c'est ce qui nous saute aux yeux de prime abord, mais disons-le, vers cet atomium où nous sommes, point de rencontre et confluent, cet atomium, symbole par excellence de l'exposition, aimant collectif, le plus photographié, le plus admiré et le plus critiqué peut-être aussi, de cet atomium, nous avons à travers le scintillement des sphères inférieures une foule extraordinaire qui suit les allées illuminées.
Et je crois qu'il est temps de terminer. Que va-t-il devenir?
Eh bien, l'atomium restera l'atomium pendant 10 ans au moins. Il sera ouvert tous les jours jusqu'au mois de mars. Ce sera surtout la sphère supérieure où nous sommes et où le monde se presse tout autour de nous. Ce sera surtout la sphère supérieure qui restera accessible. Dans 8 jours, un restaurant sera réouvert selon une formule plus démocratique et au mois de mars, réouverture complète avec de nouvelles expositions techniques. Donc pendant 10 ans encore, nous verrons scintiller les électrons capricieux des 9 sphères, mais les week-ends seulement.
Donc l'atomium reste, et avec lui, ma foi, sa signification en réduction, sous forme de presse-papier, de bracelets, de boucles d'oreilles, de porte-clés, de photos, de peintures à l'huile. Il a été distribué dans le monde à des centaines de milliers, sinon à des millions d'exemplaires. Pour le monde entier, l'exposition, c'était surtout, c'était un peu du moins, c'était un peu l'atomium. Et l'atomium, c'était l'atome au service de l'homme, la figuration d'une conquête scientifique capitale, mais surtout un point de départ. Pour l'humanité, on peut dire que la vie atomique commence demain.
Oui, nos auditeurs nous pardonneront ces réflexions un peu ambitieuses peut-être, mais il faut, nous voyons les choses de haut, forcément, à 110 mètres d'altitude. Et le dernier soir, ce soir d'apothéose, qui ne se sent comme nous le besoin de cacher sous une apparente philosophie le regret de voir s'éteindre les 1000 feux de la cité imaginaire où nous avons vécu Sim. À vous, le studio 22.
L'atomium s'installe durablement sur le plateau du Heysel pour 10 ans, 25 ans, puis 50 ans. Sa durée de vie est prolongée et garantie jusqu'en 2008. Il devient le symbole de Bruxelles, quelquefois scintillant et quelquefois grisonnant, comme les nuages qui l'entourent. Il fait partie des quelques points culminants du paysage urbain que l'on prend l'habitude de voir de loin, comme le palais de justice ou la tour du Midi. Son succès ne se dément pas. L'atomium attire jusqu'à 450 000 visiteurs par an. Il accueille également des expositions permanentes et temporaires. On y organise des salons, conférences et séminaires. Il fait même l'objet d'un poisson d'avril dans le journal télévisé en 1979.
prépare un temps qui ne devait en rien lui rappeler la sécheresse et la chaleur de son désert natal que le cheikh Bouchmelhenet a visité Bruxelles. Son court passage dans notre capitale, le cheikh l'a commencé par une visite à l'Atomium, but principal de son escale chez nous.
L'Atomium de Bruxelles,
En effet, le cheikh Bouchmelhenet aurait l'intention d'acheter l'atomium, de le faire démonter pour le transporter au Ramhala, où il deviendrait le symbole de l'industrialisation naissante de ce petit coin de désert, mais qui regorge aussi bien sûr de pétrole. Mais heureusement, en cette année du millénaire de Bruxelles, la capitale, malgré ses graves problèmes financiers, n'est pas prête de se défaire aussi facilement du symbole de l'Expo 58.
Vous voyez, Bruxelles sans l'atomium, l'atomium c'est le symbole de Bruxelles moderne, à côté de l'hôtel de ville qui est le symbole de Bruxelles ancien. C'est comme si vous disiez qu'on va démonter l'hôtel de ville pour aller monter au bord de la mer Rouge ou quelque chose de genre.
En fin de journée, satisfait de sa prise de contact trop brève avec notre capitale, le cheikh Bouchmelhenet a quitté Bruxelles en direction de l'aéroport national de Zaventem dans l'intention de regagner l'émirat de Ramhala.
En 1988, l'atomium fête ses 30 ans et il montre quelques signes de vieillesse et déjà se pose des questions d'argent pour assurer son entretien.
Alors vous n'êtes pas seulement l'inventeur de l'atomium, vous êtes devenu maintenant aussi le conservateur de l'atomium. Alors il est clair qu'à certains endroits l'atomium n'est pas très bien entretenu. Il faut dire aussi que les expositions à certains endroits ressemblent plus à l'exposition de patronage qu'à une vitrine de ce qu'on peut attendre, disons, de la Belgique de 1988. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un effort quand on sait qu'il y a tellement de touristes qui viennent à l'atomium?
Je suis parfaitement conscient de ce problème, mais c'est un problème d'ordre financier.
André Waterkane, créateur de l'atomium.
Les travaux à l'atomium coûtent extrêmement cher. Nous avons renouvelé entièrement l'ascenseur.
C'est une société privée, l'atomium?
C'est une société privée. C'est une ASBL composée par Fabrimetal, par le groupement de la sidérurgie belge et par l'Union des métaux non ferreux, donc société privée. Les moyens financiers ne sont pas évidemment illimités, mais les dépenses qu'entraîne l'entretien de l'atomium sont considérables. J'ai parlé de l'ascenseur, ce sont des coûts de plusieurs millions, mais nous venons de renouveler le grand escalateur de 35 mètres de l'atomium, encore plusieurs millions. Le nettoyage des sphères, c'est encore un nombre de millions supplémentaires. Et si nous voulons conserver l'atomium pour plusieurs années encore, il faut avant tout préserver la structure. L'aménagement intérieur est un autre problème, et là j'espère beaucoup que les services spécialisés du ministère, notamment ceux qui dépendent du ministre du budget et qui s'appellent le service de programmation de la politique scientifique, apporteront le soutien nécessaire aux rénovations de ces expositions, qui est évidemment nécessaire.
Eh bien, espérons.
Malgré les efforts financiers consentis pour assurer son entretien, l'atomium perd de sa superbe inéluctablement. Nous sommes en 1998, l'ASBL Atomium, passé sous le giron de la ville de Bruxelles, tire la sonnette d'alarme. L'état des lieux s'avère préoccupant, des rénovations en profondeur s'impose.
Comment se fait-il qu'au bout de 40 ans, cet objet le plus symbolique de la Belgique soit toujours sur pied? Sur bipode, en fait, sur trois bipodes.
Je pense que d'abord, c'est par l'extraordinaire génie de Waterkane, il faut le reconnaître, qui au départ a mis dans un monument qui ne devait tenir que 6 mois, des moyens qui ont fait que ce monument tient maintenant depuis 40 ans.
Freddy Tillemans, président de l'ASBL Atomium.
Je crois que ça, il faut le reconnaître a priori. Toute la problématique maintenant, c'est que 40 ans, quand même, ça se paie. Et que ça se paie non pas tant dans la structure fondamentale de l'atomium, ce qui donc nous permet encore toujours d'accueillir des visiteurs, mais dans tout le détail qui entoure cette structure fondamentale. Et là, il est évident que nous poussons un immense appel vers toutes les bonnes volontés, en particulier les volontés intelligentes, pour nous aider à restaurer, refaire l'atomium et peut-être penser plus loin que seulement la restauration, penser à l'ensemble de tout ce qui entoure cet atomium pour en faire un lieu ludique, un lieu où vous viendriez une fois, deux fois, trois fois, où vous auriez envie de revenir toujours.
Mais de quoi l'atomium souffre-t-il maintenant?
Alors je pense qu'il souffre de vieillesse. Et il faudrait en fait lui donner une cure de jouvence. Aujourd'hui, si vous regardez ces boules que nous allons visiter, ces sphères, pardon, que nous allons visiter tout à l'heure, vous allez voir que tout ça fonctionne encore toujours très bien, mais qu'il y a des infiltrations d'eau, qu'il y a des endroits où les pigeons sont entrés dans les sphères, qu'il y a des endroits donc qui pourrissent à cause du mélange à la fois de l'eau stagnante et des excréments d'oiseaux, le tout donnant des produits évidemment particulièrement acides. En plus, avec les mouvements de la structure sous la poussée du vent, il est évident qu'il y a des endroits où les plaques sont légèrement disjointes, où en fait l'étanchéité n'est plus garantie comme elle était au départ. Et tout ça doit être repris, revu, repensé.
Mais l'atomium a été conçu il y a 40 ans par, vous l'avez dit, l'ingénieur André Waterkane. Il était prévu pour durer 6 mois, en fait le temps de l'exposition. Et puis d'année en année, par tranche de dizaines d'années, eh bien on l'a gardé. Est-ce qu'il a encore une vie devant lui?
Alors je pense que rien qu'au vu de la, du nombre de visiteurs que nous voyons non seulement dans l'atomium, parce que là il y a des fluctuations, mais surtout autour de l'atomium, c'est-à-dire tous ces gens qui viennent avec les autobus qui s'arrêtent, qui empêchent le passage des voitures d'ailleurs, c'est peut-être bien, et qui prennent les photos, moi je dis que manifestement au niveau mondial, l'atomium est un des tout grands symboles de la Belgique, si elle existe encore, et que par conséquent, ceux qui voudraient détruire ce symbole seraient probablement des individus qui n'auraient plus le sens.